Chapitre 62 Jésus Seigneur. Lorsque Mordante arriva en face de la maison, il vit D'Artagnan sur le seuil et les soldats couchés çà et là avec leurs armes sur le gazon du jardin. « Holà ! » cria-t-il d'une voix étranglée par la précipitation de sa course. « Les prisonniers sont-ils toujours là ?»« Oui, monsieur !» dit le sergent en se levant vivement ainsi que ses hommes, qui portèrent vivement comme lui la main à leur chapeau. « Bien, quatre hommes pour les prendre et les mener à l'instant même à mon logement. » Quatre hommes s'apprêtèrent. « Plaît-il ? » dit D'Artagnan avec cet air goguenard que nos lecteurs ont dû lui voir bien des fois depuis qu'ils le connaissent. « Qu'y a-t-il, s'il vous plaît ?»« Il y a, monsieur, dit Mordante, que j'ordonnais à quatre hommes de prendre les prisonniers que nous avons faits ce matin et de les conduire à mon logement. » « Et pourquoi cela ? » demanda D'Artagnan. « Pardon de la curiosité, mais vous comprenez que je désire être édifié à ce sujet. » « Parce que les prisonniers sont à moi maintenant, » répondit Mordante avec hauteur, « et que j'en dispose à ma fantaisie. » Permettez, permettez, mon jeune monsieur, dit D'Artagnan. Vous faites erreur, ce me semble. Les prisonniers sont d'habitude à ceux qui les ont pris et non à ceux qui les ont regardés prendre. Vous pouviez prendre Milord de Winter, qui était votre oncle, à ce que l'on dit. Vous avez préféré le tuer, c'est bien. Nous pouvions, monsieur du Vallon et moi, tuer ces deux gentilshommes. Nous avons préféré les prendre. Chacun son goût. Les lèvres de Mordante devinrent blanches. D'Artagnan comprit que les choses ne tarderaient pas à se gâter et se mit à tambouriner la marche des gardes sur la porte. À la première mesure, Porthos sortit et vint se placer de l'autre côté de la porte, dont ses pieds touchaient le seuil et son front le faîte. La manœuvre n'échappa point à Mordante. « Monsieur ! Dit-il avec une colère qui commençait à poindre. « Vous feriez une résistance inutile. Ces prisonniers viennent de m'être donnés à l'instant même par le général en chef, mon illustre patron, par M. Olivier Cromwell. » D'Artagnan fut frappé de ces paroles comme d'un coup de foudre. Le sang lui monta aux tempes, un nuage passa devant ses yeux. Il comprit l'espérance féroce du jeune homme. Et sa main descendit par un mouvement instinctif à la garde de son épée. Quant à Porthos, il regardait D'Artagnan pour savoir ce qu'il devait faire et régler ses mouvements sur les siens. Ce regard de Porthos inquiéta plus qu'il ne rassura D'Artagnan, et il commença à se reprocher d'avoir appelé la force brutale de Porthos dans une affaire qui lui semblait surtout devoir être menée par la ruse. « La violence, se disait-il tout bas, nous perdrait tous. D'Artagnan, mon ami, prouve à ce jeune serpenteau que tu es non seulement plus fort, mais encore plus fin que lui. »« Ah » dit-il en faisant un profond salut, « que ne commenciez-vous par dire cela, monsieur Mordante ? Comment, vous venez de la part de monsieur Olivier Cromwell, le plus illustre capitaine de ces temps-ci ? » ?»«
Je le quitte, monsieur, » dit Mordante en mettant pied à terre, et en donnant son cheval à tenir à l'un de ses soldats. « Je le quitte à l'instant même. »«
Que ne disiez-vous donc cela tout de suite, mon cher monsieur ?» continua D'Artagnan. « Toute l'Angleterre est à monsieur Cromwell, et puisque vous venez me demander mes prisonniers en son nom, je m'incline, monsieur. Ils sont à vous, prenez-les. » Mordante s'avança radieux, et Porthos, anéanti et regardant D'Artagnan avec une stupeur profonde, ouvrait la bouche pour parler. D'Artagnan marcha sur la botte de Porthos, qui comprit alors que c'était un jeu que son ami jouait. Mordante posa le pied sur le premier degré de la porte et, le chapeau à la main, s'apprêta à passer entre les deux amis en faisant signe à ses quatre hommes de le suivre. « Mais pardon !» dit D'Artagnan avec le plus charmant sourire et en posant sa main sur l'épaule du jeune homme. « Si l'illustre général Olivier Cromwell a disposé de nos prisonniers en votre faveur, il vous a sans doute fait par écrit cet acte de donation. » Mordante s'arrêta court. Il vous a donné quelques petites lettres pour moi, le moindre chiffon de papier, enfin, qui atteste que vous venez en son nom. Veuillez me confier ce chiffon pour que j'excuse, au moins par un prétexte, l'abandon de mes compatriotes. Autrement, vous comprenez, quoique je sois sûr que le général Olivier Cromwell ne peut leur vouloir de mal, ce serait d'un mauvais effet. » Mordaunt recula et, sentant le coup, lança un terrible regard à D'Artagnan. Mais celui-ci répondit par la mine la plus aimable et la plus amicale qui ait jamais épanoui un visage. « Lorsque je vous dis une chose, monsieur, dit Mordaunt, me faites-vous l'injure d'en douter ?»« Moi ? S'écria D'Artagnan. « Moi ? Douter de ce que vous dites ? Dieu m'en préserve, mon cher monsieur Mordaunt. Je vous tiens au contraire pour un digne et accompli gentilhomme, suivant les apparences. Et puis, monsieur, voulez-vous que je vous parle franc ? Continua D'Artagnan avec sa mine ouverte. « Parlez, monsieur, dit Mordaunt. Monsieur du Vallon que voilà est riche. Il a 40 000 livres de rente et par conséquent ne tient point à l'argent. Je ne parle donc pas pour lui, mais pour moi. Après, monsieur ? Eh bien, moi, je ne suis pas riche. En Gascogne, ce n'est pas un déshonneur, monsieur. Personne ne l'est, et Henri IV, de glorieuse mémoire, qui était le roi des Gascons, comme Sa Majesté Philippe IV et le roi de toutes les Espagnes, n'avait jamais le sou dans sa poche. Achevez, monsieur, dit Mordaunt. Je vois où vous voulez en venir. Et si c'est ce que je pense qui vous retient, on pourra lever cette difficulté-là. Ah, je savais bien, dit D'Artagnan, que vous étiez un garçon d'esprit. Eh bien, voilà le fait, voilà où le bas me blesse, comme nous disons, nous autres Français. Je suis un officier de fortune, pas autre chose. Je n'ai que ce que me rapporte mon épée, c'est-à-dire plus de coups que de banque-notes. Or, en prenant ce matin 2 Français, qui me paraissent de grande naissance, 2 chevaliers de la jarretière enfin, je me disais, ma fortune est faite. Je dis 2, parce que, en pareille circonstance, monsieur du Vallon, qui est riche, me cède toujours ses prisonniers. Mordaunt, complètement abusé par la verbeuse bonhomie de D'Artagnan, sourit en homme qui comprend à merveille les raisons qu'on lui donne, et répondit avec douceur. « J'aurai l'ordre signé tout à l'heure, monsieur, et avec cet ordre 2 000 pistoles. Mais en attendant, monsieur, laissez-moi emmener ces hommes. »« Non, dit D'Artagnan, que vous importe un retard d'une demi-heure. Je suis homme d'ordre, monsieur. Faisons les choses dans les règles. »« Cependant, reprit Mordaunt, je pourrais vous forcer, monsieur. Je commande ici. »« Ah, monsieur, dit D'Artagnan en souriant agréablement. » On voit bien que, quoique nous ayons eu l'honneur de voyager, monsieur du Vallon et moi, en votre compagnie, vous ne nous connaissez pas. Nous sommes gentils hommes, nous sommes capables à nous deux de vous tuer, vous et vos 8 hommes. Pour Dieu, monsieur Mordaunt, ne faites pas l'obstiné, car lorsqu'on s'obstine, je m'obstine aussi, et alors je deviens d'un entêtement féroce. Et voilà, monsieur, continua D'Artagnan, qui, dans ce cas-là, est bien plus entêté encore et bien plus féroce que moi. Sans compter que nous sommes envoyés par monsieur le cardinal Mazarin, lequel représente le roi de France. Il en résulte que, dans ce moment-ci, nous représentons le roi et le cardinal, ce qui fait qu'en notre qualité d'ambassadeur, nous sommes inviolables, chose que monsieur Olivier Cromwell, aussi grand politique certainement qu'il est grand général, est tout à fait homme à comprendre. « Demandez-lui donc l'ordre écrit. Qu'est-ce que cela vous coûte, mon cher monsieur Mordaunt ?»« Oui, l'ordre écrit, dit Porthos qui commençait à comprendre l'intention de D'Artagnan. On ne vous demande que cela. » Si bonne envie que Mordaunt eut d'avoir recours à la violence, il était homme à très bien reconnaître pour bonne les raisons que lui donnait D'Artagnan. D'ailleurs, sa réputation lui imposait, et ce qu'il lui avait vu faire le matin venant en aide à sa réputation, il réfléchit. Puis, ignorant complètement les relations de profonde amitié qui existaient entre les 4 Français, toutes ses inquiétudes avaient disparu devant le motif, fort plausible d'ailleurs, de la rançon. Il résolut donc d'aller non seulement chercher l'ordre, mais encore les 2000 pistoles auxquelles il avait estimé lui-même les deux prisonniers. Mordante remonta donc à cheval, et, après avoir recommandé au sergent de faire bonne garde, il tourna bride et disparut. « Bon, dit d'Artagnan, un quart d'heure pour aller à la tente, un quart d'heure pour revenir, c'est plus qu'il ne nous en faut. » Puis, revenant à Porthos, sans que son visage exprimât le moindre changement, de sorte que ceux qui l'épiaient eussent pu croire qu'il continuait la même conversation, « Ami Porthos, lui dit-il en le regardant en face, écoutez bien ceci. D'abord, pas un seul mot à nos amis de ce que vous venez d'entendre. Il est inutile qu'ils sachent le service que nous leur rendons. Bien, dit Porthos, je comprends. Allez-vous-en à l'écurie, vous y trouverez Mousqueton, vous sellerez les chevaux, vous leur mettrez les pistolets dans les fontes, vous les ferez sortir et vous les conduirez dans la rue d'en bas, afin qu'il n'y ait plus qu'à monter dessus. Le reste me regarde. » Porthos ne fit pas la moindre observation et obéit avec cette sublime confiance qu'il avait en son ami. « J'y vais, dit-il. Seulement, entrerai-je dans la chambre où sont ces messieurs ? Non, c'est inutile. Eh bien, faites-moi le plaisir d'y prendre ma bourse que j'ai laissée sur la cheminée. Soyez tranquille. » Porthos s'achemina de son pas calme et tranquille vers l'écurie et passa au milieu des soldats qui ne purent, tout français qu'il était, s'empêcher d'admirer sa haute taille et ses membres vigoureux. À l'angle de la rue, il rencontra Mousqueton, qui l'emmena avec lui. Alors d'Artagnan rentra tout en sifflotant un petit air qu'il avait commencé au départ de Porthos. « Mon cher Athos, je viens de réfléchir à vos raisonnements et ils m'ont convaincu. Décidément, je regrette de m'être trouvé à toute cette affaire. Vous l'avez dit, Mazarin est un cuistre. Je suis donc résolu de fuir avec vous. Pas de réflexion, tenez-vous prêt. Vos deux épées sont dans le coin, ne les oubliez pas, c'est un outil qui, dans les circonstances où nous nous trouvons, peut être fort utile. Cela me rappelle la bourse de Porthos. Bon, la voilà. » Et d'Artagnan mit la bourse dans sa poche. Les deux amis le regardaient faire avec stupéfaction. « Eh bien, qu'y a-t-il donc d'étonnant ? Dit d'Artagnan, je vous le demande. J'étais aveugle. Athos m'a fait voir clair, voilà tout. Venez ici. » Les deux amis s'approchèrent. « Voyez-vous cette rue ? Dit d'Artagnan. C'est là que seront les chevaux. Vous sortirez par la porte, vous tournerez à gauche, vous sauterez en selle et tout sera dit. Ne vous inquiétez de rien que de bien écouter le signal. Ce signal sera quand je crierai « Jésus Seigneur !»« Mais vous, votre parole que vous viendrez, d'Artagnan ?» dit Athos. « Sur Dieu, je vous le jure !» C'est dit, dit Aramis, au cri de « Jésus Seigneur !» nous sortons, nous renversons tout ce qui s'oppose à notre passage, nous courons à nos chevaux, nous sautons en selle et nous piquons. Est-ce cela ? À merveille ! « Voyez, Aramis, dit Athos, je vous le dis toujours, d'Artagnan est le meilleur de nous tous. » « Bon, dit d'Artagnan, des compliments, je me sauve, adieu. Et vous fuyez avec nous, n'est-ce pas ? Je crois bien, n'oubliez pas le signal, Jésus Seigneur. » Et il sortit du même pas qu'il était entré, en reprenant l'air qu'il sifflotait en entrant à l'endroit où il avait interrompu. Les soldats jouaient ou dormaient. Deux chantaient faux dans un coin le psaume « Super flumina Babylonis ». D'Artagnan appela le sergent. « Mon cher monsieur, lui dit-il, le général Cromwell m'a fait demander par monsieur Mordante. Veillez bien, je vous prie, sur les prisonniers. » Le sergent fit signe qu'il ne comprenait pas le français. Alors d'Artagnan essaya de lui faire comprendre par geste ce qu'il n'avait pu comprendre par parole. Le sergent fit signe que c'était bien. D'Artagnan descendit vers l'écurie. Il trouva les 5 chevaux sellés, le sien comme les autres. « Prenez chacun un cheval en main, » dit-il à Porthos et à Mousqueton. « Tournez à gauche, de façon qu'Athos et Aramis vous voient bien de leur fenêtre. » « Ils vont venir alors, » dit Porthos. « Dans un instant. Vous n'avez pas oublié ma bourse ? Non, soyez tranquille. Bon. » Et Porthos et Mousqueton, tenant chacun un cheval en main, se rendirent à leur poste. Alors d'Artagnan, resté seul, battit le briquet, alluma un morceau d'amadou deux fois grand comme une lentille, monta à cheval et vint s'arrêter tout au milieu des soldats, en face de la porte. Là, tout en flattant l'animal de la main, il lui introduisit le petit morceau d'amadou dans l'oreille. Il fallait être aussi bon cavalier que l'était d'Artagnan pour risquer un pareil moyen, car à peine l'animal eut-il senti la brûlure ardente qu'il jeta un cri de douleur, se cabra et bondit comme s'il devenait fou. Les soldats qu'il menaçait d'écraser s'éloignèrent précipitamment. « à moi !» criait d'Artagnan. « Arrêtez, arrêtez! Mon cheval a le vertige !» En effet, en un instant, le sang parut lui sortir des yeux et il devint blanc d'écume. « À moi !» criait toujours d'Artagnan, sans que les soldats osassent venir à son aide. « À moi ! Me laisserez-vous tuer ? Jésus Seigneur !» À peine d'Artagnan avait-il poussé ce cri, que la porte s'ouvrit et qu'Athos et Aramis, l'épée à la main, s'élancèrent. Mais, grâce à la ruse de d'Artagnan, le chemin était libre. « Les prisonniers qui se sauvent ! Les prisonniers qui se sauvent !» cria le sergent. « Arrête, arrête !» cria d'Artagnan en lâchant la bride à son cheval furieux qui s'élança, renversant deux ou trois hommes. « Stop, stop !» crièrent les soldats en courant à leurs armes. Mais les prisonniers étaient déjà en selle et une fois en selle, ils ne perdirent pas de temps, s'élançant vers la porte la plus prochaine. Au milieu de la rue, ils aperçurent Grimaud et Blaisois qui revenaient cherchant leur maître. D'un signe, Athos fit tout comprendre à Grimaud, lequel se mit à la suite de la petite troupe qui semblait un tourbillon et que d'Artagnan, qui venait par derrière, aiguillonnait encore de la voix. Ils passèrent sous la porte comme des ombres, sans que les gardiens songeassent seulement à les arrêter et se trouvèrent en rase campagne. Pendant ce temps, les soldats criaient toujours « Stop, stop !» Et le sergent, qui commençait à s'apercevoir qu'il avait été dupe d'une ruse, s'arrachait les cheveux. Sur ces entrefaites, on vit arriver un cavalier au galop et tenant un papier à la main. C'était Mordaunt qui revenait avec l'ordre. « Les prisonniers » s'écria-t-il en sautant à bas de son cheval. Le sergent n'eut pas la force de lui répondre. Il lui montra la porte béante et la chambre vide. Mordaunt s'élança vers les degrés, comprit tout, poussa un cri comme si on lui eût déchiré les entrailles et tomba évanoui sur la pierre.